Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, attention, c'est un sommaire exceptionnel hein, aujourd'hui de Chut, on écoute la télé pour ce 11 novembre. On a décidé de fêter comme il se doit ce jour férié avec deux coups de cœur ciné. Le premier dans un instant consacré au film En tongs au pied de l'Himalaya. John Wax et Benjamin Tranier seront nos invités. Deuxième coup de cœur ciné, ça sort également dans les salles le 20 novembre prochain. Ça sera Le Panache, nouveau film de Jennifer De Volder qui sera accompagné de José Garcia. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine, deux gros coups de cœur. Le premier consacré à Cat Size qui débarque ce soir sur TF1. Son créateur Michel Katz et le réalisateur Alexandre Laurent seront avec nous, mais aussi les trois Cat Size seront là. Camille Lou, Claire Romain et bien sûr Constance Labbé seront avec nous. Et puis on va parler aussi de la série Les Espions de la Terreur qui débarque demain soir sur M6. Le réalisateur Rodolphe Tissot accompagné de Fleur Geffrier et Rachida Brakni seront également avec nous. Vous l'avez compris, vraiment on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. On débarque tout de suite avec En tongs au pied de l'Himalaya.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film En tongs au pied de l'Himalaya, un film de John Wax qui est notre invité. Aujourd'hui, ça sort mercredi dans les salles. Bonjour John.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis l'élément un peu perturbateur, comique du film, Benjamin Tranier qui est avec nous. Bonjour Benjamin.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et il va nous faire rire, je suis sûr aussi, il va vous faire rire en tout cas dans le film. Malgré qu'on a un sujet, on va dire grave, et à la fois traité avec légèreté, avec de la comédie, ça fait du bien de voir des sujets traités aussi de cette façon-là, John.
Oui, on n'avait pas envie de faire chier les gens avec un film larmoyant ou être tombé dans le pathos, etc. C'était inspiré de la pièce de Mario Del Valle, En tongs au pied de l'Himalaya, et c'était à l'image de la pièce, donc c'est touchant, mais aussi c'est drôle, et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce film, garder un équilibre, d'avoir ce film à la fois où on a de l'émotion, mais on laisse la place au rire aussi.
Alors, tu disais justement pour la petite anecdote, c'est que Marie-Odile a pu la jouer une fois cette pièce juste avant que les théâtres ferment, avant le Covid, et que tu as eu la chance d'accéder à cette représentation unique, hein, c'est le cas de le dire, et que du coup tu as eu l'idée d'en faire un film pour que cette histoire se développe aussi de façon peut-être différente.
Ouais, exactement, j'ai failli ne pas y aller en plus, j'avais un peu la flemme, c'était un soir, et bah j'ai bien fait finalement de sortir de chez moi et d'aller la voir parce que le lendemain les salles fermaient, donc la pauvre elle a pu la jouer qu'une seule fois, et vraiment j'ai été touché. J'ai ri et tout de suite en sortant, je lui ai dit que j'avais l'envie de faire un film avec David Gauquet. Je sortais d'un tournage de Barbac de Fabrice Eboué, et voilà. Et donc, j'ai vu tous les ingrédients pour faire un bon film et je lui ai proposé de faire l'adaptation. Elle a accepté et j'en suis ravi.
Benjamin, toi tu joues le frère d'Audrey, on va situer un petit peu l'histoire puisqu'on va y retrouver ce couple qui a un enfant, qui découvre qu'il est atteint d'un syndrome autistique et donc évidemment ça va faire exploser le couple comme souvent malheureusement dans ce genre de situation et à la fois elle va se retrouver en garde alternée avec cet enfant, avec un frère qui va pas toujours lui être d'une aide collaborative. Non, Benjamin.
Non c'est sûr, la pauvre elle a déjà pas mal de soucis personnels à gérer. Et dans son foyer, elle vit en coloc avec son frère pas mal tougher, voilà, qui aime bien la fête et qui voit pas plus loin que 2-3 heures dans la journée, quoi. Ce n'est pas l'aider dans un premier temps et en fait, on va se rendre compte que mon personnage, entre autres, mais tous les rôles secondaires, vont un peu mettre leur petite pierre à l'édifice pour essayer d'aider au mieux Pauline, donc jouée par Audrey Lamy, et l'aider à se sortir de son histoire et de l'aider à s'émanciper et à lui donner plus d'espoir dans sa vie personnelle, quoi.
Et puis avec un père pas beaucoup mieux, puisque en fait le passe-temps favori de votre père à tous les deux avec Pauline et ton personnage, eh ben c'est en fait de te demander des choses à faire qui ne servent à rien pour t'occuper.
Exactement. Oui oui, c'est tellement.
Oui, j'ai bien vu le film. Hein.
Oui oui, c'est tellement un loser que son père lui donne des fausses choses à faire et qu'il croit réelles. Du coup, c'est assez marrant à chaque fois. Ça ne fait qu'empirer pendant le film. Et c'est vrai que ce personnage est un bonheur à jouer et à voir surtout puisque quand on a vu dans les salles en fait les moments très difficiles que traverse l'héroïne du film et d'un coup la séquence suivante, le personnage rentre. Et ça fait un peu rire, enfin même bien rire la salle, donc ça permet de souffler un peu, ça fait hyper plaisir, on se dit ah bah c'est réussi. En tout cas, je trouve que on a la comédie et on a le côté très drame et très important de l'histoire dans un même film et c'est assez jouissif à voir, je trouve.
Alors, t'es un bon comédien quand même, hein, John, hein, parce que il faut savoir que Benjamin garde à peu près le même état pendant tout le film et qu'il est pas du tout pareil là aujourd'hui.
Oui, non, c'était pas vraiment un rôle de composition, hein, on va pas se mentir. C'est un peu pour ça que je l'ai pris. Non, je trouve qu'il a un physique très attachant et rigolo.
Alors, on va parler évidemment du jeune garçon qui joue. Je crois que le plus beau compliment qu'on puisse te faire, c'est te demander si ce petit garçon est vraiment atteint d'autisme parce que il est d'un réalisme saisissant.
C'est vrai, c'est une des questions que je préfère après le film quand on me demande s'il est vraiment autiste, parce qu'il ne l'est pas, on peut pas tourner avec un enfant autiste puisqu'il y a des situations où enfin, on le met en situation de crise et ce serait de la maltraitance de mettre un autiste en situation de crise. Donc, mais ouais, c'était un bonheur de tourner avec lui, on n'avait pas l'impression de tourner avec un enfant, c'est vraiment un comédien, il avait plein de choses à gérer, la gestuelle, le regard, le texte, etc. Il était vraiment super.
Il y a plein de personnages qui gravitent autour, celui de Nedra Ayadi aussi, qui joue le rôle de l'accompagnante, un peu pour guider la guideuse, hein, quelque sorte des parents aussi. Ça existe dans la vraie vie, ça ?
Ah oui, bien sûr, oui, c'est ce qu'on appelle les AVS. Et ouais, c'est elle qui va un peu apprendre à Pauline à comment aider son fils à progresser, à évoluer, pour le guider vers plus d'autonomie.
Et puis il y a Jacqueline.
Oui, Jacqueline, la maîtresse. Fallait pas tomber dans un rôle caricatural de méchante, parce que j'aime pas trop, moi, dans des films, ces personnages qui sont juste méchants.
Gratuitement.
Ouais, elle est pas méchante, en fait. C'est juste que, elle aussi, elle a ses problèmes, elle a sa vie, et voilà, et c'est.
Il faut comprendre ce genre de situation, parce que tant qu'on la vit pas, c'est impossible de se mettre à la place des gens qui la vivent. Donc il y a aussi ça, et ça, c'est ça que j'ai bien trouvé, c'est que Jacqueline, elle est parfaitement à sa place, justement, dans le rôle. On va continuer à en parler, évidemment, en tongs au pied de l'Himalaya. On va écouter la bande-annonce. Ça sort mercredi au cinéma et on revient juste après avec vous, Benjamin et John. À tout de suite.
Je voulais faire un petit point avec vous avant la rentrée. Ça a été un peu compliqué l'année dernière à cause de ces troubles du comportement. Un petit peu.
On a pu commencer un petit traitement pour traiter son hyperactivité. Okay. Et c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus apaisé.
Ah bah non, mais là, ça n'a rien à voir.
Non, rien à voir.
Ton fils, il est autiste comment ? C'est un génie ? Il compte des allumettes ou que dalle ?
Non, il compte pas spécialement des allumettes.
J'ai pas cassé mon lit. J'ai pas bouché les toilettes.
Oh, on est plus ou moins séparés avec Fabrice.
Non, c'est pas possible. Tu vas faire quoi maintenant ? 40 ans, un gamin handicapé, pas de boulot.
Alors déjà, j'ai que 39 ans.
Bah, excuse-moi de m'inquiéter, mais je suis pas sûr que de vivre avec ton frère soit un environnement très stable pour le petit.
Pardon, j'ai perdu mes clés.
Tu fais chier.
On a fait un apéro pour la nif de Michel, ça a un peu traîné.
C'était pas il y a deux jours l'anniversaire de Michel ?
Ouais, c'est ce que je dis, c'est un peu traîné.
En tongs au pied de l'Himalaya, le film de John Wax qui sort mercredi au cinéma. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué particulièrement tous les deux, alors que ça soit pour toi, John, derrière le combo, comme on dit, dans le langage cinéma, ou pour toi, Benjamin, a joué.
Bah, moi, une de mes scènes préférées du film, c'est le coup de gueule de Pauline à la maîtresse pendant le PPS, le projet personnalisé de scolarisation. Donc, c'est une réunion où se réunissent la directrice d'école, la maîtresse, la VS, etc. Et ouais, c'est ce coup de gueule de Pauline, à peu près à la moitié du film, je crois, que j'adore.
Pour toi, Benjamin.
Moi, ce qu'on en disait tout à l'heure, c'est que ce soit un vrai... on n'avait pas l'impression de voir un enfant, en fait. C'était fou. John le dirigeait comme nous, comédiens adultes, quoi. Et il était jamais saoulé. Il écoutait toujours très bien ce qu'on lui dit. Il faisait tout ce qu'on lui demandait. Et c'était, était le professionnalisme d'un petit garçon comme ça. Et sa maturité m'a vraiment impressionné.
Voilà. Combien t'en as vu, John, justement d'enfant? Et qu'est-ce qui t'a séduit tout de suite chez Eden?
Moi, j'en ai vu, je dirais, une dizaine, une vingtaine, mais c'est surtout Johan Bordery, donc, qui s'est occupé du casting enfant et coach aussi d'Eden sur le film, qu'on a vu des centaines. Mais vraiment, tout de suite, lui, il sortait du lot, quoi. On voyait qu'on allait pouvoir travailler, créer des choses avec lui, et il arrivait tout de suite à fixer les choses. C'était, voilà, comme je veux dire, pas l'impression de tourner avec un enfant, mais avec un comédien, quoi.
C'est ça qui est absolument génial, j'imagine, les premiers rushs, les premières scènes que tu as tournées avec lui, ça a dû quand même te saisir, quoi.
Ouais, bah on avait beaucoup travaillé en amont aussi, il a pas mal travaillé avec Mario Dill, donc qui est ma co-auteure et qui a elle-même un enfant autiste, donc on a beaucoup travaillé en amont sur la gestuelle, la façon de parler, de marcher. Ce qui était assez fou, c'est que quand on disait action, il se mettait à marcher différemment, à bouger différemment, à regarder un peu partout, etc. Il s'est vraiment mis dans le perso, ouais, c'était assez fou.
Alors, puisque c'était un spectacle à la base de Mario Dill, qui a été avorté au bout d'une représentation, maintenant que le film a existé, est-ce que ça lui a donné envie de remonter sur scène pour le jouer?
Ah bah complètement, elle a fait carton plein à Avignon au théâtre du Chêne Noir, je crois, ouais. Non, ça a été un carton, et puis là je crois que du coup, bah, ça a intéressé beaucoup de monde, elle va être en tournée un peu dans toute la France. C'est un très beau spectacle et je conseille à tout le monde d'aller le voir.
On va découvrir ça, en tout cas j'espère que ça passera dans la région très prochainement. On va terminer par vos projets, à tous les deux. John, j'imagine que dans 2 jours le film va appartenir au public, ça fourmille déjà pour la suite?
Oui, je suis actuellement en développement d'une série avec Disney, et aussi de mon prochain long métrage, mais bon, ça on en parlera plus tard.
Oui, on aura le temps de se revoir, j'espère.
J'espère aussi.
Benjamin.
Et moi, j'ai mon spectacle où je suis en tournée dans toute la France. Ça s'appelle Félicitations et tout sur le thème du mariage. Voilà, je fais toujours des chroniques sur une radio publique. Et j'ai un nouveau film qui sort en janvier, le 1er janvier, voilà, qui s'appelle L'amour c'est surcoté de Mourad Winter, qui est son premier film. Voilà.
Mourad qu'on embrasse.
Évidemment.
Dans un petit peu plus d'un mois et demi, du coup, au cinéma, on va pouvoir prendre double dose de Benjamin Tranier à 2 mois d'intervalle.
Exactement.
Ça va faire beaucoup, Kevin John.
Ça fait beaucoup.
Bon, en tout cas, Anton Gopier de l'Himalaya, Audrey Lamy, Nicolas Chupin, Benjamin Tranier, Nedra Yadi, Eden Lopez, Jean-Charles Cliché, Steve Tienche, en tant que patron d'Audrey, qui est génial aussi. Bref, il y a un casting de fou. Allez voir, vous avez passé en tout cas un super moment. Vous allez rire, vous allez être ému. C'est ça qu'on aime aussi dans un film. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour le moment que vous nous avez fait vivre et que vous allez faire vivre maintenant aux spectateurs. Merci. À bientôt.
Merci
beaucoup.
Moi je suis là pour qu'ensemble on mette en place des protocoles qui permettront à Andrea de progresser.
Voilà.
Si toi de ton côté tu fais pas l'effort, moi tout ce que je fais ça sert à rien et je perds mon temps.
C'est juste que là, c'est pas facile quoi.
Tu veux un Xanax?
Non. Elle est déjà alcoolique, tu vas pas en plus la mettre dans les cachetons.
J'ai l'impression d'être au pied d'une montagne infranchissable et que...
Mais non!
Je suis pas équipée pour...
Non, pas celle-là!
Et donc, qu'est-ce que tu dois faire pour gravir cette montagne avec lui?
Le porter?
Exactement.
Oh, mon bébé d'amour! Ah, mais qu'est-ce que vous faites là?
Maman!
Ça va, mon amour? Attends, Andréa, va dans ta chambre.
Viens, je suis dans le salon.
C'est un pote qui a pommé ses clés.
Il est tout nu.
Allez, ne bougez pas, dans un instant, nos coups de cœur télé consacrés à Kat Size, Michel Katz, Alexandre Laurent, Camille Lou, Claire Romain, Constance Labbé nous rejoignent, et puis Les Espions de la Terreur avec Rodolphe Tissot, Fleur Geffrier et Rachida Brakni. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Il te dit qu'il t'aime, que tu es belle. Il te caresse avec des épines de rose. Il te promet la lune et te promet le miel. Il te dit que c'est ta faute quand il explose. Il te fait du tort, il te fait du mal. Mais l'amour à mort n'a rien de normal. Il sait qu'il a tort, il sait que t'as mal. Mais l'amour à mort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tout est calme avant la tempête. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Mais tu dois t'en aller. Passer l'amour, ouais, passer le charme. Comment faire quand tu es devenu sa chose? Que dire quand l'oreiller est devenu une arme? Quand ta liberté est une porte close? Quand les mots sont forts et les mots sont durs? Quand l'amour à mort devient un coup sûr? Et tout l'or du monde n'est pas une armure? Quand l'amour a tort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tu penses aux promesses qu'il t'a faites. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Mais tu dois t'en aller. Se lève et l'horizon est bien dégagé. Il restera des traces, mais tu seras enfin libéré. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé, c'est l'événement. Ce soir, Cat Size débarque sur TF1. On l'attendait depuis déjà tellement longtemps qu'on en entendait parler que ça y est, c'est là. Et on a la chance d'avoir Alexandre Laurent, le réalisateur, metteur en scène de ces épisodes. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et on doit déjà Les Combattantes, Le Bazar de la Charité, et c'est encore une série, un grand spectacle que tu nous offres là. Et puis Michel Katz, le créateur justement, qui est avec nous aussi. Bonjour Michel.
Bonjour.
Merci, et moi déjà vraiment un merci. C'est peut-être avec Nicky Larson les deux mangas qui m'ont le plus bercé ma jeunesse. Et j'avoue que les voir incarner par en plus trois comédiennes qu'on adore tous, c'est un vrai cadeau que vous nous faites là, qu'on va voir ce soir. Parce que j'ai eu la chance de voir les deux premiers épisodes. Et j'avoue que c'est un vrai cadeau que vous nous faites, Michel, notamment d'avoir créé ça.
Bah, nous aussi, enfin moi, merci Alexandre. C'est un vrai cadeau d'avoir fait une série aussi incroyable, aussi impressionnante. Donc moi, j'étais là... face à ma feuille, et je me suis dit est-ce que ça ressemblera à quelque chose un jour, et là ça dépasse les espérances, donc on est hyper fiers et hyper contents. Nous aussi on a mis vachement de temps à créer cette série, à la porter, à la faire exister, parce qu'on y a rêvé il y a plusieurs années, 6-7 ans, voilà, et c'était pareil, un dessin animé de mon enfance, forcément. Avec un nom pareil, je me faisais charrier dans la cour de récré, donc ça m'a beaucoup beaucoup marqué. Nicky Larson aussi, d'ailleurs. Mais moi, j'étais plus team Cat Size. J'étais fan des trois filles. On faisait des bandes de filles des fois, et c'est vrai que c'était hyper important pour nous d'avoir trois héroïnes super badass, super héroïnes et en même temps hyper ancrées dans la réalité, hyper réalistes. Trois filles avec des filles d'aujourd'hui, avec des problématiques d'aujourd'hui, qu'il a fallu adapter 40 ans après. Et voilà, et on est hyper fiers.
C'est vrai, dans la mise en scène, il y a quelque chose d'hyper moderne en plus. On va voir les plus beaux monuments de Paris filmés. Alexandre, comment t'as fait pour pouvoir justement pouvoir aller filmer la Tour Eiffel, au Château de Versailles? Il y a des endroits absolument mais somptueux pour cette mise en scène.
Beaucoup de travail, beaucoup de préparation, beaucoup de visites. Parce que dans tous ces monuments, il y a un respect à avoir vis-à-vis du monument et des personnes qui nous accueillent.
Un temps, j'imagine, donné aussi.
Un temps, mais oui, le temps, après, c'est la loi d'un tournage. Oui, c'est surtout, en fait, ça se négocie pas, ça se gagne, c'est la confiance. Des responsables de la Tour Eiffel, des responsables du Louvre, des responsables de Versailles, qui au début nous montrent ces monuments avec des accès. Puis évidemment, on y va et on nous dit, bon, là, vous avez le droit de passer là, mais vous n'avez pas le droit de monter à l'étage. Puis la deuxième fois que je reviens, je fais, c'est quand même pas mal l'étage. Bon, et comme elle a vu qu'il y avait du respect, qu'on n'allait pas faire n'importe quoi, c'était d'emmener en fait tous ces gens à nous permettre d'accéder un peu partout. Et la Tour Eiffel, je crois que je la voyais avant comme une entité, un monument. Et maintenant, quand je la vois, j'en vois chaque recoin parce que je l'ai vraiment visité. J'ai tout fait. Enfin, pour choisir là où on allait poser nos caméras, là où Tam allait escalader, il a fallu dompter la bête et en visiter chaque recoin. Ça a été pareil pour Versailles, le Louvre, je crois qu'elle nous a dit, mais jamais quelqu'un n'a été autant d'endroits, comment vous allez faire, vous n'allez pas avoir le temps. Alors je lui ai expliqué comment je procédais, je lui ai montré des bouts de film de ce que je faisais avant, avec ma caméra en mouvement, et finalement on n'est pas si nombreux à se déplacer avec une caméra et les acteurs. Donc ça a été de gagner la confiance de tous ces gens. Beaucoup de préparation, beaucoup d'échanges avec Michel pour comprendre l'univers, quand vous l'amenez, parce qu'il y a plein de façons d'adapter... un manga, on part d'une BD, donc c'est après une BD, c'est quelque chose qu'on interprète, on fait vivre des gens dans nos têtes, on entend des voix qui n'existent pas. Donc ça a été beaucoup de boulot, beaucoup d'échanges avec Michel, avec Benji, le producteur, pour donner vie de façon assez réaliste. Et ils m'ont donné les règles de base quand je suis arrivé, c'est si elles tombent, elles se font mal. Enfin voilà, pour qu'on trouve le ton de la série. C'est pas Superman, il n'y a pas que la kryptonite qui craint. C'était des vrais êtres humains qui devait exister dans l'époque d'aujourd'hui.
Il faut dire que les trois héroïnes, Constance, Camille et Claire, sont exceptionnelles, toutes les trois. Et il fallait quand même aussi, c'était peut-être un défi, de créer cette alchimie entre les trois sœurs et arriver à la retranscrire à l'écran. Et on sent, pour les avoir vues toutes les trois, et on va leur demander, parce qu'elles vont débarquer dans quelques instants avec nous, cette alchimie, vous l'avez sentie tout de suite à la caméra. Parce que quand on voit comment elles ont été heureuses lors des avant-premières, quand la série a été présentée, on sent vraiment que tout est trois, il y a quelque chose qui s'est créé, quoi.
C'est marrant parce que c'était la préoccupation principale de Benjamin Dupont-Julien, producteur, qui était, je sais pas si le mot angoissé, c'est le bon, mais faut absolument que ça marche entre les trois. Moi, mon angoisse, elle était sur le défi technique. Oui, et ça marchera. J'adore les acteurs, les actrices, on va choisir les bonnes personnes et j'avais pas de doute. On a mis beaucoup de temps à les caster. Il y a plein de gens qu'on a vus et qui étaient formidables aussi, mais il fallait créer un trio, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi individuellement trois actrices, on a choisi trois actrices qui allaient aller ensemble. Donc en fait, c'était alchimie, moi j'y croyais depuis le début, c'était d'excellentes comédiennes, il y en avait une avec qui j'avais déjà bossé. Claire, je la connaissais qu'à travers l'écran, je ne l'avais jamais rencontrée, je connaissais Constance dans la vie. Voilà, c'était des personnes qui matchaient, intelligentes, qui avaient envie que ça fonctionne, et c'est vrai qu'elles se sont vite entendues.
Le casting idéal. Et puis Michel, c'est vrai que on retranscrit bien dans la série le caractère de chacune d'entre elles, avec Tam le caractère un peu frondeuse, Syl avec le caractère un peu plus réservé, qui essaye de freiner un peu, et puis le caractère effronté d'Alex, évidemment, et t'as bien gardé effectivement le caractère de ces trois filles qu'on a connues dans le dessin animé, quoi.
Ouais, c'était vraiment hyper important, même si en vrai, on en a un souvenir très rock, mais elles sont moins rock dans le dessin animé, en fait. Elles sont vraiment très téméraires, elles ont peur de rien. Mais une fois qu'elle se retrouve au café, elle se disputait pas beaucoup, il y avait pas énormément de chamaillerie, et nous on voulait qu'il y ait une véritable trajectoire. Quand on a écrit Les Arches avec Justine Kim Gauthier et Antonin Martin Hilbert, on a beaucoup réfléchi à la trajectoire de la série. Et pour nous, la trajectoire de la série, c'était se dire comment elles se sont transformées, comment elles sont devenues les Cat Size. Et donc, on voulait aussi comment elles sont redevenues une famille, en fait. C'est-à-dire vraiment retomber sur comment ces trois sœurs vont aller voler des tableaux dans les plus grands monuments de Paris. Pour ça, il faut une équipe vraiment très, très soudée. Et donc, on voulait beaucoup de conflits avec l'équipe de scénaristes. Et ça nous a permis de faire ressortir encore plus les caractères. Donc au début, elles se disputent, elles se chamaillent beaucoup, mais en fait, elles s'aiment vraiment, vraiment très, très fort. Je trouve que ce que Alex a vraiment réussi, c'est ce mélange de conflits et d'amour en permanence. Et petit à petit, on va de plus en plus vers... on est trois sœurs, on est une famille, et elles se ressemblent de plus en plus à la fin, tout en ayant toujours chacune un petit peu son caractère.
Alors pour ceux qui vont regarder ce soir, on va juste d'effleurer 5 minutes. Tam fait son grand retour après quelques années d'exil auprès de ses deux sœurs, et va essayer de faire comprendre à ses sœurs que l'incendie de la galerie de leur père, qui est mort dans cet incendie quelques années plus tôt, n'est pas innocent, et qu'elle a cru reconnaître en tout cas une de ses toiles, et va tout faire pour essayer de la récupérer, pour voir si le petit repère et la petite bêtise d'Alexia est derrière, y est toujours, pour voir si c'est vraiment sa bêtise à elle, pour voir si vraiment c'est celle de son père ou pas. Et on va voir, effectivement. Bon, quand ceux qui connaissent ce dessin animé, ils savent, mais c'est un peu ça le premier épisode, et ça va nous emmener dans les arches de la Tour Eiffel. Et pour le petit défi, Alexandre, je crois que t'étais chronométré sur les jours juste avant que les anneaux olympiques soient posés. Il fallait que t'aies absolument fini avant que les anneaux olympiques soient posés en octobre 2023.
C'était une longue préparation. Donc, comme souvent sur des projets, on se dit quand on aurait bien mi-août, puis fin août, et puis il faut écrire.
De mai à septembre.
Voilà, c'est ça. Et on a envie que ce soit bien, et c'est compliqué, et il faut toujours jauger le moment où on peut y aller. Et pour la Tour Eiffel, donc en fait, on a tourné la dernière semaine qui nous était possible de tourner. Et c'est vrai que le samedi matin, on devait terminer comme tous les matins à 6h, et si on n'avait pas fini, tant pis. Donc il fallait que Tam arrive en haut du sommet de la Tour Eiffel avant samedi matin à 6h, parce que le lendemain commençait l'installation des anneaux des Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que cette semaine, en plus, il avait fait beau les dernières très tardivement, on avait eu un bel été indien, et évidemment, la semaine où on commence à tourner, je regarde à 10 jours la météo, je me dis putain, c'est pas vrai. Et je vois pluie. Je me rappelle, je suis arrivé avec beaucoup d'appréhension le jour du tournage. Je suis arrivé 2 heures avant, je le fais rarement, mais c'était des nuits, donc quand on commence à 6h du matin, on vient pas à 4h. Là, c'était PAT minuit, donc l'équipe convoquée à 22. Moi, je suis arrivé à 19h. J'ai écouté de la musique, Kavinsky, devant la Tour Eiffel. Je l'ai regardé. J'ai versé une larme, je sais pas, d'émotion ou d'appréhension. Partir 8 mois en tournage, en fait, c'est laisser une part de soi derrière. On sait qu'à la fin de ce tournage, on aura vécu plein de choses. J'ai 2 enfants, ils auront grandi, je les vois le week-end. Mais c'est vrai qu'on termine rarement un tournage humainement comme on l'a commencé. Un tournage transforme, en fait.
L'idée, vous allez me dire si je me trompe, mais pour terminer, en tout cas, dans vos espérances, si ça cartonne, et j'ai aucun doute là-dessus ce soir, parce qu'on va être très nombreux, vous avez envie, je crois, au moins de développer Cat's Eye sur 3 saisons, et avec une saison tous les 2 ans. Est-ce que Michel, déjà, l'écriture et tout ça, est-ce que c'est déjà un peu au travail tout ça?
En tout cas, avec les producteurs, on commence déjà à imaginer les choses. Après, on est surtout hyper impatient de voir comment le public va recevoir la saison 1. Le premier épisode, il est super, mais il est pas mal drama par rapport. Il y a beaucoup plus de comédie par la suite. Et avec Alex, c'est hyper crescendo. Donc quand on a vu le premier, le deuxième est encore mieux, et ceux d'après vraiment je trouve sont encore plus dingues. Voilà, donc oui, on est, de toute façon, quand on écrit des histoires comme ça, on espère toujours une suite. On sait un petit peu là où on aimerait emmener les sœurs.
Il y a plus de 70 épisodes au dessin animé, donc il y a un peu de matière quand même.
Oui, mais George Lucas, quand il fait La Guerre des Étoiles, il sait déjà qu'il a envie de faire l'Empire contre-attaque, il sait qu'il veut faire le Retour du Jedi, et il sait qu'il y en a 3 autres avant, et au moment où on le fait, il faut déjà que ça sorte. Enfin, il y a plein d'enjeux, donc une saison 2, on y pensera
T'es prêt à donner 8 mois de ta vie tous les 2 ans sur 6 ans ?
2 ans pendant 2 ans, mais si ça repart, je repartirai volontiers évidemment. L'aventure est dingue. Moi, je me suis frotté à un genre que je n'avais jamais fait, parce que je viens plutôt du drame, du polar, du fantastique. J'avais jamais fait vraiment de comédie, alors je suis arrivé un petit peu. Ils m'ont mis en confiance. J'ai découvert ce qui pouvait me faire rire et comment faire rire à l'écran au fur et à mesure du tournage. On s'est lâché, on a beaucoup échangé avec Michel sur le ton pour me rassurer. Je trouve que c'est bateau, mais que c'est plus difficile de faire rire que de faire peur. Si on rate une scène qui est censée faire peur ou mettre un peu de tension, une musique stridente, ça suffit pour amener cette tension. Une scène drôle, je crois pas à la formule de mettre 3 petites clochettes pour rendre une scène drôle si elle l'est pas à la base. Donc c'est une toute autre approche. Puis c'est très subjectif, le rire. La peur et le frisson aussi, mais il y a des choses qui marchent à tous les coups.
Si c'est je tape dans
quelqu'un en faisant bourre, on sursaute tous. Voilà, par contre, on rit pas tous aux mêmes blagues.
D'ailleurs, vous sursauterez à un moment donné, hein, je peux vous dire. Quand j'ai eu l'occasion de voir cet épisode, il y a un moment où on sursaute bien dans le premier. Merci, en tout cas, tous les deux, d'avoir été avec nous. On va continuer à en parler dans un instant. On va lancer la bande-annonce. Juste après, Constance Labbé, Claire Romain, Camille Hillot nous rejoignent pour notre plus grand plaisir. On va parler de leur préparation, on va parler un peu de tout ça. Merci encore, infiniment. On attend déjà la suite avec impatience, je vous le dis. Les deux premiers, c'est ce soir et c'est 21h10 sur TF1. Merci Alexandre, merci Michel.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
J'ai du nouveau sur la mort de papa. Papa, il est mort il y a 12 ans quand sa galerie a brûlé. Quelqu'un a volé les tableaux et a foutu le feu à la galerie pour se couvrir. Ce tableau, c'est peut-être notre seule chance de découvrir si on a tué papa.
Attendez, on va quand même pas devenir des voleuses pour ça.
Dis-moi que t'as rien à voir avec cette affaire de voleuse là.
Je veux qu'elle comprenne que c'est très mal élevé de mettre le bazar dans le trafic des autres.
Que me les faire.
Cat Size, la série événement de la rentrée, prochainement sur TF1.
Voilà, bande-annonce donne envie, hein. Ce soir, c'est le lancement de Cat Size sur TF1. J'avoue que je suis chanceux. Oui, 3 de mes comédiennes préférées dans la même série, et qui en plus sont là toutes les 3 en même temps, eh ben c'est un grand bonheur. Camille Hillou est avec nous. Bonjour Camille.
Bonjour, pour nous aussi c'est un grand bonheur.
Claire Romain est là aussi. Bonjour Claire.
Bonjour.
Et puis Constance Labbé est là aussi. Bonjour Constance.
Salut.
3 habitués d'émission, vous venez régulièrement pour des projets solo, mais là, vous êtes là pour un projet commun, un projet fou, une ambition pharaonique des producteurs, du réalisateur. Franchement, vous vous êtes investi, ça se voit à l'image, c'est complètement dingue ce que j'ai vu. Et il y a de tout, il y a de l'humour, il y a de l'action, et puis franchement, ça vous va tellement bien, toutes les 3. Vous vous êtes lancés, mais à corps perdu, hein, on a vraiment l'impression.
Oh là là, oui, oui, complètement, je pense.
À Camille.
Ah oui, ouais, mais je pense toutes les 3, on s'attendait pas. On savait que ça allait être intense et dur, mais pas à ce point-là. C'est vrai que c'était la intense. Tour Eiffel. J'ai eu un vrai moment un peu fou où j'étais transie de froid, mais tellement heureuse de l'être. C'était, je me disais, mais waouh, j'ai froid, il pleut, c'est génial. Il y a le vide en dessous, c'est fou. Enfin, c'était incroyable. J'ai vécu des moments fous. On a vécu des moments fous et hyper intense en émotion, en tout, et avec mes sisters que j'aime d'amour. Enfin, c'était génial.
On sent une alchimie entre vous assez dingue, c'est vrai, hein, Claire.
Complètement. Je pense que ça se ressent à l'image, cette complicité qu'on a eue. On n'a pas cherché à créer une fratrie. En fait, moi, je me suis aussi inspirée de la relation que j'ai avec mes sœurs. Et je pense que Camille et Constance, pas toi du coup, vu que t'as pas de sœurs, mais avec tes frères du coup. mais pour le coup, c'est vrai que naturellement, on a eu cette complicité. J'ai de la chance d'avoir de super... sœurs de fiction qui ont été très bienveillantes et en fait on s'est senti hyper à l'aise et ça faisait plaisir quoi.
Constance.
Ouais et puis en plus on a eu la chance déjà effectivement on a senti dès la première rencontre dès le premier déjeuner qu'on a fait tous ensemble que quelque chose était très bien choisi et très bien placé. Il y avait un endroit qui était correct dans grande sœur, petite sœur, moyenne sœur et nos personnalités qui matchait très bien. Et puis en plus, je pense que par choix et aussi par obligation, on a commencé par tourner des moments plus physiques, que ce soit mes sœurs sur la Tour Eiffel ou à la Monnaie de Paris, où j'étais avec Camille dans le vide et tout. Et avant de s'attaquer à des scènes de confrontation, d'amour, qui sont des scènes d'appartement. Et donc en fait, de pouvoir tourner pendant un mois que du physique, du dépassement de soi, des moments très difficiles aussi en termes de confiance, ça a créé quelque chose très naturellement de sororité qu'on n'a pas eu besoin d'aller chercher, d'aller fabriquer dans les scènes un peu plus psychologiques qu'on a eu à tourner en décembre.
C'est ça quelque chose. Alors j'ai un petit début de réponse pour Claire. Parce que pour la petite anecdote, quand elle a su qu'elle était prise sur Cat's Eyes, j'étais avec elle quasiment, on a eu un dîner ensemble sur un festival. Mm-hmm. Je dirais pas où, parce qu'autrement il y en a qui vont se méprendre. Mais elle venait juste d'être choisie et elle me l'a confié avec une confiance accrue. Elle savait que j'allais rien sortir avant, évidemment, que ça soit annoncé officiellement. Mais je sentais une excitation chez toi. C'était mais un feu d'artifice dans ta tête.
Ouais, bah c'est clair. Bah c'est sûr que c'est un projet hyper ambitieux pour le coup. Voilà, j'ai pas de cachet, j'étais un peu stressée parce qu'on a quand même pas mal de pression pour réussir à, enfin moi pour le coup, pour incarner le personnage d'Alexia. C'est une série qui a bercé toute une génération. Dès que j'ai appris que j'étais prise sur le projet, j'étais trop heureuse quoi. Enfin, en fait, je pense que c'est le rêve de toute comédienne de pouvoir jouer de l'action en même temps. Il y a du jeu, enfin il y a des scènes de jeu, on a une palette de couleurs hyper riche, ouais.
C'est presque des costumes de super-héroïne que vous allez revêtir en tout cas ce soir. Camille, Tam, comment t'as réagi toi quand t'as su que t'allais incarner ce personnage emblématique pour toute une génération dont je fais partie?
Mais comme le dit Claire, c'est une pression qui est folle parce qu'on n'a pas envie de décevoir les gens. Et je me disais, ok, il faut y aller à fond, faut pas se planter, il faut que les gens puissent s'y retrouver, qu'ils se sentent pas déçus ou trahis. Donc ça faisait très peur. Mais je pense que quand on fait les choses avec le cœur et quand on le fait à fond, les gens sont tout aussi heureux que nous et c'est ce qu'on a fait toutes les trois. Tout a été fait avec le cœur, la réalisation. Je peux te dire, c'était hyper intense. Même Alex, je ne sais pas comment Alex fait. C'est Alexandre Laurent, le réalisateur, parce que il a eu entre les mains un projet, comme tu as dit, mais c'est gigantesque, avec peu de temps, peu de sommeil. Franchement, je suis admirative. Je ne sais pas comment il fait. Je suis admirative d'Alexandre. Tout est beau, mais même par la suite, tout a été compliqué parce que très intense, parce que très dur et ambitieux. Mais ils ont rien lâché. Personne n'a rien lâché. La musique, tout, il y a tout est chouette, tout est beau. Enfin, on se laisse prendre. Et j'espère sincèrement que les fans, les grands fans de Cat's Eyes vont s'y retrouver. Et je pense qu'ils vont s'y retrouver, en fait.
Oui. J'en suis sûr et je te le dis, je te le confirme, ils vont s'y retrouver. Voilà, j'ai eu la chance de voir les deux premiers épisodes pour l'instant. Et moi c'est vraiment, pour rien vous cacher les filles, c'est Nicky Larson et Cat's Eyes, pour moi c'est... Voilà, et c'est la base. Toi, Constance, pour le coup, quand t'as su que t'allais incarner Syl, comment ça s'est passé dans ta tête?
Pour le coup, à l'image de mon personnage, réfléchi.
Réservé.
Ouais, réservé. Je suis comme ça dans la vie, en fait. Vraiment, je raisonne beaucoup, donc il se passe plein de choses, plein de contradictions, plein de stress, plein d'interrogations qui font que je peux pas avoir un truc incroyable qui me bouleverse complètement. Enfin, il y a une première émotion évidemment de fierté déjà immense d'avoir été choisie, de se dire qu'on nous fait confiance. Enfin, c'est assez incroyable et c'est et quand on pense au chemin que c'est de devenir comédienne et en tout cas moi pour ma part à la difficulté que ça a pu représenter de travailler, ne serait-ce que de travailler, d'avoir la chance de faire notre travail. Moi, c'est à ce moment-là, c'est à la limite à moi jeune que je pense tout de suite en disant « Waouh !» Vraiment là, regarde-toi avec ce regard-là et dis-toi que c'est génial. Et après, tout de suite, viennent 1000 interrogations qui ressemblent, c'est peut-être pour ça que j'ai été choisie pour jouer Cilia. Ouais. On ressemble vachement à nos persos. Quoi.
C'est ça qui est drôle parce que pour avoir été avec toi encore une fois, c'était vraiment feu d'artifice pour toi, pour le coup, un peu plus réservé pour toi. Donc c'est drôle, ça vous ressemble vachement finalement.
À ce niveau-là, sur certains points, évidemment qu'on ressemble à nos personnages, sur d'autres non, j'espère. T'inquiète pas, t'es pas aussi casse-couille. Non, exactement. Ce qui est hyper intéressant, en revanche, c'est à quel point, en plus sur un long tournage comme ça, ouais, tu te perds dans ton personnage. Moi, je sais que pendant 7 mois, je pense que mon entourage, ça a été difficile. J'ai été difficile avec mon entourage parce que j'étais beaucoup plus autoritaire, j'étais beaucoup plus renfermée, j'étais barricadée dans quelque chose qui a été difficile, quoi.
T'es rassurée aujourd'hui de voir que ça appartient à partir de ce soir au public? T'es rassurée?
Ah non, bah non, alors c'est un autre stress qui commence.
C'est un autre stress.
Là, c'est lâché. Effectivement, notre travail, il s'arrête là. Maintenant, c'est le public qui va ou pas aimer.
Attends, il va s'arrêter là. Je suis pas si sûr que ça. Une fois que cette première saison va être diffusée, je sais pas, mon petit doigt me dit que ça va tellement cartonner, vous allez y retourner très vite. Ah, l'ambiance a dû être marrante quand même sur le tournage par moment. Est-ce que vous avez eu des moments de décompression?
Alors c'était des moments de décompression. Moi, ça m'a marqué hein, avec Constance. C'était des fou rires, mais de pleurs presque aussi, de pression. On était à 30 mètres ou 20 mètres d'altitude là, à la Maison de la Monnaie, suspendu. En fait, le harnais, au bout de quelques heures, quand on est suspendu, ça c'est pas très agréable. Ça fait un petit peu mal. Et puis c'est surtout que d'un seul coup, avec la fatigue, notre limite de
je vais y arriver et tout, baisse de plus en plus, et en fait, j'arrive plus. Et puis, on avait vraiment, on n'en pouvait plus à 20 mètres, ça va, c'est bientôt fini, hein, oui, c'est bientôt fini. En limite, en pleurs de, allez, en fait, oui, on va y arriver, on peut continuer à arriver, même s'il est 5 heures du matin, qu'on est fatigué et presque à en rire, quoi. C'est des moments qu'on peut pas oublier après de fou rire. Je crois qu'on n'a pas eu trop le temps d'avoir des fous rires. On n'a pas eu le temps.
On a toutes les trois quelque chose d'assez, effectivement, un point commun dont on parlait avec Camille tout à l'heure, c'est que on travaille beaucoup.
Ouais.
De manière très différente, toutes les trois. On a ce point commun qui est le point commun du travail et de la rigueur et donc.
J'ai envie de bien faire.
Oui, oui. Mais vraiment, c'est vraiment intéressant à quel point nos méthodes varient. Mais on a donc il y a des moments, il y a forcément aussi des moments où la méthode de l'autre te dit non, c'est pas ma méthode en fait. Donc toi ta méthode c'est ta méthode, mais moi ma méthode c'est ma méthode. Mais ce point commun est ce qui fait que je pense ça s'est bien passé et que j'espère on a réussi à faire un truc pas mal, c'est que on bosse. Ouais. Et donc pour rebondir sur le fou rire, c'est que on était quand même dans des situations où il a fallu tourner vite beaucoup de choses et on a été très concentrés, en vrai, et il fallait pas perdre de temps.
En tout cas, on va s'éclater ce soir, je vous le dis. 21h10, ton rendez-vous est donné sur TF1. On ne rate pas ces deux premiers épisodes de Cat Size. Quand je regardais en 1990 sa série, jamais j'imaginais d'avoir des comédiennes comme vous faire prendre vie à ces héroïnes que moi j'aimais tant. Donc merci déjà pour ça. Et merci pour ce beau moment que vous nous avez fait passer. Et moi je vais déguster 8 épisodes. J'espère avant tout le monde parce que TF1 va me les envoyer, j'espère. On va vous les faire déguster très vite. On va dealer ça. Merci les filles. Merci. Je vous embrasse très fort. À très vite.
À très vite.
Merci beaucoup. Merci mille fois. À bientôt.
Police, arrête-toi! 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 Stop!
C'est qui ce mec?
Ce tableau, c'est peut-être notre seule chance de découvrir si on a tué papa.
Crois-tu qu'on
Cat Size, la série événement, prochainement sur TF1.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine, c'est Les Espions de la Terreur qui débarquent sur M6. Vous allez pouvoir découvrir les deux premiers épisodes de cette mini-série haletante, menée de main de maître par le réalisateur Rodolphe Tissot qui nous rejoint. Bonjour Rodolphe.
Bonjour.
Et vous allez voir deux comédiennes absolument incroyables dans cette série aussi, Rachida Brakni qui est avec nous. Bonjour Rachida.
Bonjour.
Fleur Geffrier, une habituée de l'émission aussi. Bonjour Fleur, merci d'être là.
Bonjour, merci.
Mondialement connue, Fleur, hein, maintenant, hein, après Les Gouttes de Dieu. Incroyable série sur Apple qu'on vous conseille évidemment de découvrir, adaptation d'un manga. En attendant, là, on va basculer en 2015 lors des attentats terroristes. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cette série, c'est que là, on va mettre non seulement en avant et à l'honneur les femmes et les hommes de l'ombre, ceux qui ont œuvré pour tenter d'arrêter ces terroristes. Et jamais, on va dire, dans des scènes violentes, tout est vraiment suggéré. Mais vraiment, on s'intéresse à ces femmes et ces hommes de l'ombre. Rodolphe, c'était voulu dès le départ, ce parti pris?
Oui, il y avait une envie de la part d'abord des auteurs et de Franck qui a écrit la série. Et puis ensuite, pendant tout le processus, d'être d'abord au plus près de la vérité de l'action de ces personnages-là. Et c'est vrai que, voilà, être agent à la DGSE, à la DGSI, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de bureaux, beaucoup de filatures, d'écoute. Finalement, les scènes d'action sont plus rares que ce qu'on peut voir dans les films, dans leur métier. Donc voilà, il y avait cette envie de raconter vraiment ce que c'était leur métier. Donc concrètement, comme je viens de l'expliquer, et puis aussi intimement, humainement, c'est des gens qui ont soit pas de vie privée, soit une vie privée très difficile. Donc on le voit bien à travers nos trois personnages principaux, nos trois agents. Vincent n'a pas de vie privée du tout. Lucie essaye d'avoir une aventure, mais finalement, comme elle le dit, ce métier la bouffe. Et puis Malika, elle a réussi à avoir une vie de famille, mais qui souffre beaucoup de son métier puisqu'elle ne peut jamais dire à ses enfants, à son mari. Ce qu'elle va faire, quand est-ce qu'elle part, elle arrive le matin, elle repart le soir. Donc voilà, pour ces trois personnages, d'une manière différente, on voit bien que c'est plus qu'un métier, c'est quelque chose qui...
C'est une vocation.
Une vocation, un sacerdoce, je sais pas quel est le mot, mais ils ont cette obsession-là aussi, c'est-à-dire que les agents n'ont qu'une obsession, c'est nous protéger.
Chez le pire.
Empêcher le pire, et puis dans le cas de la série, avec ce point de départ du 13 novembre, il y a une sorte de colère et de rage qui les anime. Forcément, ils se sentent un peu responsables, peut-être d'une sorte d'échec, puisqu'ils n'ont pas réussi à empêcher ces attentats. Donc à la fois, ils les vivent de la même manière que nous, et en plus de ça, avec une sorte de culpabilité ou de rage supérieure qui va les animer tout au long de la série pour essayer de faire mieux, d'empêcher de nouveaux attentats et de retrouver ceux qui ont commandité, organisé ces horreurs.
Alors, on va évoquer le personnage de Malika, évidemment, Rachida, qui revient un peu du front, hein, en quelque sorte, dans la famille, justement, et qui va être rappelée très très vite, et qui va devoir faire équipe avec Lucie, incarnée par Fleur. Et au début, ça coûte tiré quand même, hein, les deux services, entre la DGSE et la DGSI.
Oui, mais d'ailleurs, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment véridique. Déjà, ces deux services, ils sont complémentaires, mais à la fois, ils viennent de deux familles diamétralement opposées quand même, puisque la DGSE, historiquement, déjà, c'est l'armée, et puis la DGSI, c'est des flics. Donc, ils viennent pas, entre guillemets, du même monde, quoi. Et c'est comment réussir à travailler ensemble, comment réussir à faire front commun et à mettre en commun des informations pour pouvoir faire avancer les enquêtes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, indépendamment des deux services, chacune de ces femmes incarne évidemment leur hiérarchie. Et indépendamment de ça, il y a quelque chose qui se passe aussi entre elles pour plein de raisons. Déjà, d'une part, je pense parce que c'est deux femmes qui évoluent dans un monde assez masculin. Et puis, elles sont capables aussi de mettre un peu de côté cette espèce d'orgueil ou de morgue que pourraient avoir quand des hommes, au contraire, rouleraient un peu plus des mécaniques. Enfin, c'est un peu grossier ce que je dis, mais elles arrivent à entrevoir chez l'autre une possibilité de collaborer et une possibilité d'avancer pour tout simplement pour le bien commun. Et ça, je trouve ça assez fort chez ces deux personnages, c'est qu'elles arrivent à mettre de côté leur ambition personnelle, le poids de la hiérarchie, pour faire triompher le bien, comme on dirait.
C'est pas mal dit, Fleur.
Oui, je suis complètement d'accord. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, le fait de la confrontation de la DGSE et de la DGSI, c'est qu'il faut savoir que leurs objectifs à court terme n'étaient pas exactement les mêmes, même s'ils œuvraient exactement pour la même chose, contre le terrorisme, etc. La DGSE, leur but, c'était plutôt d'arrêter, voire de tuer les commanditaires, les responsables. La DGSI, c'est plutôt d'empêcher des nouveaux attentats sur le territoire. Donc, au fond, ils œuvraient pour la même chose, mais parfois, les enquêtes pouvaient être antagonistes, parce que ça pouvait empiéter sur les plates-bandes de l'autre. C'est pour ça que c'était assez compliqué. C'est vrai qu'on le voit dès le début, à l'arrivée de la DGSE, dans la DGSI, ils se regardent tous un peu avec des fusils dans les yeux, genre « Ici, c'est chez moi, qu'est-ce que tu fais chez moi ?»
Bataille de territoire, hein.
Un petit peu, mais, et c'est ça. Et les deux femmes, elles, refusent un peu cette bataille de territoire, justement, disant « On n'est pas là pour ça, et on va s'allier en loose day pour arriver à nos fins, finalement. » C'est ça que j'ai trouvé beau dans ces deux femmes, dans l'histoire de ces deux femmes.
Ouais, et puis on va y découvrir quelques secrets quand même, hein. Lucie cache quelques petits secrets quand même à cette hiérarchie. Et pas que, vous verrez dans le film, on va pas tout vous dévoiler évidemment. On va écouter la bande-annonce, Les Espions de la Terreur, ça débarque sur M6 cette semaine. Et on revient juste après avec vous, on écoute.
J'ai 18, on tue des tirs en provenance du Bataclan.
Ce qu'on craignait depuis des mois vient d'arriver. Alors on reste sur le pont jusqu'à ce qu'on ait chopé les fumiers qui ont fait ça.
On pourrait peut-être s'entraider, non?
On travaille pour localiser le dernier membre en fuite, Salam Nesta.
On creuse toutes les pistes.
Sur le terrain, t'as décidé une menace imminente.
Ça y est, on est infiltré. On va donc officiellement fournir des armes à des terroristes.
Colonel, je fais pas de politique. Je fais du renseignement.
C'est ça une collaboration pour vous? Confiter des infos de vos collègues pour les doubler?
Allez, on continue notre spécial. Rodolphe Tissot, Rachida Brakni et Fleur Geffrier sont avec nous. Les Espions de la Terreur, la fiction événement d'M6 à ne pas rater. Alors cette semaine et la semaine prochaine, hein, il y aura deux soirées événements qui vous attendent. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est la tension permanente. On s'ennuie pas une seconde. On est vraiment sous tension avec justement ces deux services-là, avec ces femmes et ces hommes de l'ombre, hein, comme je le redis encore. Mais même dans la réalisation, dans la narration, dans le scénario, mais c'est incroyable le rythme, quoi.
Oui, je crois, j'espère. Merci. En tout cas, il y avait déjà à la base des scénarios qui étaient effectivement très denses, très bien écrits, et c'est ça qui m'a plu énormément dans cette aventure. Après, comme j'expliquais tout à l'heure, on est beaucoup sur Il y a beaucoup de réunions, de discussions, et il s'agissait de d'amener du thriller d'espionnage là-dedans, beaucoup dans des bureaux. Donc il y a eu un travail de découpage, de mise en scène à ce niveau-là pour effectivement ne jamais lâcher l'attention et rendre tout ce travail qui peut être parfois un petit peu même sur des dialogues, des fois avec beaucoup d'expressions qu'on un langage propre à eux qui peut parfois nous échapper, voilà, de rendre tout cela haletant. C'est vraiment aussi la beauté des textes au départ, et puis le travail avec les comédiens. J'avais un casting formidable. Je le dis pas parce qu'elles sont là, je le pense vraiment. Et puis le travail de la musique aussi. Il y a beaucoup de musique dans le film. Philippe Jacquot a fait un travail aussi incroyable d'une musique qu'on attendait peut-être pas forcément dans cette série, et qui participe à jamais lâcher l'attention qui anime nos personnages du début à la fin. Et puis aussi je crois que l'attention passe aussi par l'empathie qu'on a à ces personnages, et même si on connaît pas grand chose de leur vie, on en connaît suffisamment, on l'a dit tout à l'heure, pour s'accrocher à eux, mais voilà, raconter un peu leur âme et avoir envie de suivre leur quête de jusqu'au bout de la série.
C'est une histoire humaine, c'est vrai, avant tout, qu'on découvre. Alors, c'est tiré d'un livre, à la base. Est-ce que vous avez lu le livre toutes les deux avant ou pas, par curiosité, ou vous l'êtes un peu interdit?
Non pas que je me le sois interdit pour ma part, mais non, j'en ai pas ressenti le besoin. Déjà, la lecture du scénario, enfin, il y avait une telle rigueur, tout ça me paraissait. Et puis après, pour en avoir discuté avec Rodolphe, je sentais bien que on était au plus proche des faits, et donc j'ai pas eu besoin de matière supplémentaire pour nourrir le personnage. Au contraire, c'était plutôt les questions que je pouvais avoir, c'est des choses que j'ai pu partager avec Rodolphe sur comment construire ce personnage, et puis sur toute la dimension plus intime en fait de ces personnages, où il y avait tout à inventer finalement, où il y avait tout à créer. Donc non, moi j'en ai pas ressenti le besoin.
Fleur?
Pareil que Rachida, j'ai commencé à lire, je me suis dit, ah ok, on est sur en fait d'autres espions, on parle pas des mêmes espions. Les espions de la terreur dans le livre de Mathieu, ce sont les djihadistes, nous c'est donc les agents de la DGSE, de la DGSI.
C'est notre point de vue.
Exactement, et du coup, une fois que j'avais bien l'enquête en tête qui est donc dans le scénario, effectivement, nous, nos personnages qui sont fictifs, il a fallu qu'on les nourrisse de nous-mêmes, donc je me suis plus concentrée là-dessus, effectivement, une fois que vraiment l'enquête était très claire dans ma tête.
Dernière question, vos projets pour les semaines à venir, pour le coup, Fleur, Rachida notamment?
Je suis en préparation là d'une série pour France 2 qui s'appelle Rivage, réalisée par David Oureg, qui se passe à Fécamp. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant.
Réalisateur de Germinal, effectivement. Rachida?
Moi, il y a un film qui va sortir très bientôt, le film de Susanna Grant, qui est un film américain pour Netflix. Et puis sinon, j'ai un film de Daniel Arbid, de la réalisatrice, en projet.
Qui l'on doit 66.5 d'ailleurs sur Canal+, et notamment les 4 premiers épisodes. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On vous rappelle que Les Espions de la Terreur, les 2 premiers épisodes, c'est cette semaine sur M6. On ne le rate pas. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Allez, ne bougez pas, on revient dans un tout petit instant avec José Garcia et Jennifer De Volder pour la fin de l'émission consacrée au film Le Panache, qui sortira le 20 novembre au cinéma.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, revient dans un instant, à tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, chut, on écoute la télé.
Combien de fois il leur faudra partir? Combien de fois avant de revenir? Quand ils te laissent là sans réfléchir, combien de fois t'as pensé à t'enfuir? Mais tu vis à travers eux, tu vois avec leurs yeux. Même si c'est loin là-bas, ils y sont avec toi. Combien de fois tu as dit au revoir? Dans des aéroports, dans des rues, dans des gares. Quand les amis s'envolent, quand les amours démarrent. Pas la vie qu'ils nous volent, mais un petit peu d'espoir. Mais tu vis à travers eux, tu vois avec leurs yeux.
si c'est loin là-bas. Ils y sont loin de toi. Peu importe les ciels qu'ils voient, ils auront les mêmes étoiles que toi. Peu importe les mers qui vous séparent, tu les retrouveras au départ. Et tu vis à travers eux. Tu vois le clair Dieu. Même si c'est loin là-bas. Ils y sont avec toi. Même si c'est loin là-bas. Ils y sont avec toi.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné consacré au film Le Panache qui sortira le 20 novembre prochain. Le film très attendu de Jennifer De Volder après le fabuleux Sage Homme dont on a tant parlé il y a quelques années. Jennifer is back dans Chute on écoute la télé avec nous pour en parler. Bonjour Jennifer.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous et puis elle est venue avec un beau cadeau. Bah oui, pour ce mois de novembre, José Garcia est notre invité également aujourd'hui. Bonjour José.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux pour parler de ce film qui raconte l'histoire de Colin, un jeune garçon, bègue, et qui arrive dans une nouvelle ville, nouveau lycée, s'installer avec sa maman qui vient de se séparer avec son mari, et qui va trouver refuge en quelque sorte, en tout cas, qui va trouver sa voie dans le théâtre grâce à son merveilleux prof de français incarné par José Garcia. C'est toute une fable en sensibilité qu'on reconnaît bien ta patte aussi, Jennifer, dans ce film, et c'est une adaptation ce coup-ci.
Tout à fait, c'est une adaptation d'un seul en scène qui s'appelle toujours Dans la peau de Cyrano, qui a été joué plus d'un millier de fois en France par le comédien et auteur Nicolas Devor, qui joue un petit rôle dans le film d'ailleurs.
Ah, ça c'est un beau clin d'œil.
C'est un petit clin d'œil, ouais. Il joue le prof de biathlon si des gens le cherchent.
Alors Jennifer, comment t'en es venue à vouloir justement adapter cette pièce? Qu'est-ce qui t'a séduit en tout cas dans cette histoire?
Ben, quand je l'ai vu, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de thèmes qui m'intéressaient et que j'avais déjà un peu exploité dans Sage Homme, mais de manière différente, et qui sont donc la transmission, l'acceptation de la différence et trouver sa place. Donc, dès que je l'ai vu, je me suis dit, allez, banco, on y va.
Alors, José, tu joues ce prof de français qui arrive pour remplacer un prof absent, pour le coup, et qui va avoir ses méthodes bien à lui pour intéresser ses élèves. Et ce que j'ai aimé dans ce prof de français, c'est que, voilà, chaque élève, on le disait, on est sur l'acceptation aussi de la différence, etc., hein, pour le coup, dans ce film. Mais lui, à aucun moment, va faire de différence justement chez Colin et va le prendre comme les autres élèves, mais en l'accompagnant et le mettre en confiance aussi. C'est ça que j'ai aimé.
Écoute, oui, parce que je pense que quand on arrive, il y a plusieurs manières d'entrer comme ça dans une salle et de se retrouver avec une vingtaine ou une trentaine d'élèves. C'est que soit on arrive et on impose une autorité, soit on essaie de comprendre qui sont les élèves et quelles sont leurs spécificités. Et ce qui est très bien, c'est que le cast qu'a fait Jennifer est génial, parce que tout de suite, il y a des caractères comme ça qui semblent évidents. On voit tout de suite des gamins qui sont un peu bousculés par les autres. Il y avait une espèce de hiérarchie comme ça. Moi, je les regardais, je les observais beaucoup quand je suis arrivé. Et moi, j'ai une méthode, c'est que quand je suis avec ou des enfants ou des ados, je me mets au milieu d'eux tranquillement, je les laisse venir. C'est-à-dire que je n'impose pas le fait que j'arrive en tant qu'acteur ou que je connaisse le métier ou un truc comme ça. Donc je les laisse venir et là c'était formidable parce que chacun venait avec son caractère, son énergie. Je voyais déjà qui était le déconneur, celui qui allait se mettre dans le fond et tout ça. Et donc c'était très agréable de pouvoir jouer avec eux et avec leur caractère. Il y a la petite Nejma qui arrête pas, qui cherche un peu les cognes tout le temps et qui déjà comme ça est dans la vie, qui fait un peu de l'humour au second degré et déjà de la taquiner ou de lui sortir des vannes un petit peu en lui disant bravo, quelle réflexion, quelle idée formidable.
formidable vous avez eu. Et il y a une espèce de jeu qui s'installe avec chacun d'entre eux. Et le merveilleux Joachim, avec qui, tout d'un coup, bah, déjà, il y avait une osmose qui était géniale, parce que je vous avouerai qu'à force de lui sortir que des bêtises, bah, il bégayait presque pas avec moi. Donc, c'était même plus compliqué dès qu'on commençait à jouer, parce que souvent, il était impeccable. Voilà. Donc, dans cette relaxation-là, dans cet espace-là, de voir comment chacun trouve sa place, c'était déjà la première des choses. Et puis après, d'être à l'écoute de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils sont.
C'est ça qui est beau, Jennifer. Quand on a autant de jeunes devant soi à mettre en scène, il faut une certaine rigueur. Comment tu t'y prends justement pour qu'ils soient quand même à ton écoute?
Ah, je disais souvent que du coup sur le tournage, la personne à laquelle je m'identifiais le plus c'était Madame Bauer. J'avais l'impression de devoir faire l'autorité et dire aux
la
gens.
Prof d'à côté, de la salle d'à côté.
Non, la directrice.
Ah, la directrice carrément.
Ouais, la directrice du collège. J'avais l'impression d'être cette personne-là, devoir taper sur les doigts de ceux qui faisaient pas bien. Mais non, mais en fait ils étaient tous hyper pros. Ils arrivaient à l'heure, ils connaissaient leur texte au cordeau et ils avaient hyper envie de bien faire. C'est vrai que tout le groupe, on a eu de la chance, on n'a pas eu d'éléments perturbateurs, parce que parfois il y en a, et un seul élément perturbateur peut provoquer une sorte de marée humaine de perturbation. Et là, on n'a vraiment pas eu ça. On a eu des gamins hyper sérieux. Ils voulaient bien faire, ils voulaient être bons, ils voulaient être justes, ils étaient très excités à l'idée de participer à cette histoire.
Joachim, il est incroyable. Il faut dire quand même qu'il amène une espèce de sensibilité qui transperce l'écran, qui amène une vérité, puisqu'il est vraiment bègue, hein, pour le coup, dans la vie, qui amène vraiment cette véracité aux propos.
Oui, je pense que le fait d'avoir pris quelqu'un qui bégait et qui est un bègue profond apporte une authenticité aussi à l'histoire, et il vient avec sa vérité à lui, c'est-à-dire qu'on a finalement aussi intégré des éléments de sa vie personnelle, même si lui est très différent de Colin dans la vie, hein, lui se reconnaît, enfin trouve qu'il n'est pas du tout au même endroit que Colin, mais c'est vrai qu'on a intégré des éléments personnels de sa vie aussi, et je pense qu'il est arrivé avec oui aussi qui il était et en connaissant la problématique vraiment de l'intérieur. Après, il a aussi beaucoup beaucoup travaillé, parce que pour pouvoir sortir le texte pour un bec, c'est vraiment quand même quelque chose de compliqué. Ça lui demande une concentration, on n'a pas idée de ce que c'est, quoi. Pour un bec, c'est vraiment très difficile de parler. C'est comme marcher quand on a deux pattes folles, quoi. C'est il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est l'énergie et la distance. Pour lui, ça a été quelque chose, quoi.
José, t'as pu voir la pièce avant ou pas? Ou est-ce que justement la pièce dont t'es adapté le film, ou justement tu te l'es un peu interdit pour le mettre de côté en attendant de t'approprier le personnage?
Non, je m'interdis rien, mais c'est vrai que non, parce que ce qui est important, c'est moi je pars toujours du principe que quelquefois que ce soit des livres ou des pièces, je sais qu'il faut d'abord être dans la tête de la mise en scène. Donc il faut suivre en fait ce que le metteur en scène veut, et là en l'occurrence Jennifer avait une idée précise. Je préférais rester dans sa tête à elle, dans ce qu'on allait faire, plutôt que de me retrouver.
Même les jeunes acteurs, je voulais pas qu'ils voient la pièce, parce que c'est un seul en scène, c'est pas une pièce, elle est pas jouée, c'est lui qui fait tous les personnages, donc évidemment il grossit le trait beaucoup, et ce qui marche hyper bien et hyper drôle et fonctionne très bien sur scène, fonctionnerait pas du tout au cinéma. Donc je voulais que José fasse son propre De Varso, et ensuite évidemment c'est quand même un adulte qui fait tous les gamins aussi, hein, donc c'est spécial.
C'est pour ça qu'il y a aussi tout un travail à l'écriture avec ta partenaire de jeu, Cécile Selam, que tu retrouves après justement Sajom, où tu t'es remis à l'écriture justement avec elle. On va continuer à en parler dans un instant. Le Panache, ça sort le 20 novembre au cinéma. On va écouter la bande-annonce et on revient juste après avec vous. À tout de suite.
Installez-vous vite. Alors je suis Monsieur De Varso et je m'occupe aussi de l'atelier théâtre. Ça vous donnera l'occasion de briller devant vos camarades et sur scène. À nous.
Je m'appelle
Colin. Il s'appelle Colin.
Enchanté, Colin. Au théâtre, il faut parfois réfléchir avec le ventre. Le centre des émotions.
Il y a des poulets dans la cour.
Nous allons étudier Cyrano de Bergerac.
C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap.
Non, je suis folle à présent.
Merci, Cyrano.
Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative?
Respire, Colin. C'est pas grave si les mots sortent pas dans l'ordre. N'oublie pas, Cyrano parle à la femme dont il est éperdument amoureux. Alors vas-y, tout simplement, doucement.
Si je bégayais, ça serait pour ralentir le temps. Comme ça, je deviens pas un adulte.
Allez, le panache, c'est le 20 novembre au cinéma, le film à ne pas rater, nouveau film de Jennifer De Volder avec José Garcia. Il y aura Attica, il y a plein de beaux mondes autour. Alors, il y a des personnages dont on devient vite fan dans ce film aussi. Je pense à Ancha, je pense à Maxence, qui amène une sensibilité à fleur de peau également sur ce personnage, cet ado qui se cherche un petit peu au grand dam de son père. Il est incroyable.
Ouais, c'est un acteur né. Il a une finesse, je pense que c'est Joachim, je ne sais pas s'il va vouloir faire un moment pas son métier ou son métier, on verra bien, mais Maxence il est extraordinaire. Moi je c'est un des élèves en tout cas qui amène un charisme exceptionnel, quoi. Déjà il a tout compris déjà par rapport à la finesse, à l'émotion, à la désinvolture, il est incroyable.
Et puis l'amour va venir se mêler un petit peu de tout ça, puisque évidemment Colin va tomber sous le charme d'une des élèves, Adé.
Bien sûr, parce que ça reste aussi un film de college movie, comme on dit. Hein. Donc, s'il n'y a pas l'amour quand on est ado, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, bien sûr, il va tomber amoureux.
Évidemment, ça va être parsemé un petit peu d'embûches. Mais bon, on sent qu'elle n'est pas insensible non plus à son petit charme, de bègue, quand même.
Je sais pas. Moi, je la vois plutôt comme étant hyper gentille. Donc, en effet, elle ne le rejette pas, en tout cas. Après, je pense que lui se dit quand même qu'elle est out of his league, tu vois.
José, est-ce que t'as une scène préférée? Quand t'as vu le film monter, fini, avec la musique, avec tout, toutes les émotions que ça peut faire passer.
Il y a une scène forcément qui m'inquiétait énormément, parce que c'est la scène un peu de fin. C'est celle qui est un petit peu, qui fait penser un petit peu à... Au sac des poètes disparus, celle-là, forcément, elle est dans la référence, dans ce qu'on allait faire, dans les gamins et tout ça. C'est celle qui m'inquiétait le plus, parce que faut pas rentrer trop dans le pathos, faut faire très très attention aux scènes d'émotion. On peut tout rater en fait sur une scène comme ça. C'est pour ça que j'étais surtendu quand on l'a faite. Mais c'est la scène d'émotion de la fin, oui, que je trouve très belle d'ailleurs, parce qu'elle est simple. On sent que voilà, on est tous un peu émus que je parte, parce que bon, j'ai été viré. Ça, c'est pas ma première fois à l'école. À l'écran, oui, mais bon, à l'école, j'ai un peu l'habitude. Je vous avouerai, j'aurais pas mis autant d'émotions.
Bon, t'aurais voulu être professeur de français à un moment donné ou pas du tout? Ça t'a jamais chatouillé les oreilles, ça?
Alors non, j'avais pas la capacité intellectuelle de pouvoir être professeur de français. Non, mais je trouve que... Alors moi, je suis très mauvais pédagogue, mais j'adore rencontrer des gens qui le sont. J'adore apprendre, j'adore rencontrer des gens qui ont cette capacité-là. Je leur suis très très reconnaissant, parce qu'il n'y a rien de meilleur que de rencontrer quelqu'un justement qui ne met pas d'a priori, quelqu'un qui ne va pas... Enfin, moi, je passe ma vie à apprendre. De toute façon, je crois que c'est un des plus gros budgets que j'ai dans ma vie, c'est ça. C'est de payer des cours, c'est d'apprendre, c'est d'être tout le temps sur des podcasts, c'est de voir des gens qui ont de la réflexion, c'est d'être dans une conversation avec de la nuance. En fait, c'est tout ce que je recherche encore plus maintenant qu'avant. Parce qu'aujourd'hui... On est ou pour ou contre, on est en guerre. Donc je trouve que c'est maintenant que la connaissance n'a jamais été aussi proche de nous et aussi loin, en fait.
Jennifer, ta scène préférée ou que tu redoutais le plus, peut-être?
La même que José, celle où tout le monde se lève, et aussi celle où Colin insulte Gare.
Un de ses camarades
en italien, qui était une scène que j'appréhendais au niveau du jeu de Joachim. Est-ce qu'il arriverait à sortir tout ce qu'il arriverait à sortir à ce moment-là, et en italien, puisque c'est pas sa langue maternelle. Et donc oui, c'est les deux scènes où j'avais le plus d'appréhension.
Chaque personnage a son importance, hein. Le personnage de la maman, bien sûr, Ratika, mais le personnage du papa aussi, qui essaye de maintenir quand même un lien avec son fils, malgré tout, en le préparant, en l'entraînant à faire une partie de la Scandibérique, célèbre route à vélo. Et puis aussi toute la famille italienne aussi, qui amène vraiment cette touche de comédie.
Oui, tout à fait, qui étaient des choses qui n'étaient pas du tout dans le seul en scène qu'on a rajouté. Le seul en scène se passait vraiment au collège et racontait l'histoire à l'intérieur du collège. Et donc, du coup, il a fallu inventer un peu la situation de Colin. Qu'est-ce qu'il vivait? Quelle était sa famille? Qui était sa mère? Et donc, tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a décidé d'intégrer tout de suite de manière assez inconsciente. Et donc le film parle aussi de ce que c'est que d'être un enfant du divorce en filigrane. C'est aussi l'histoire d'une reconstruction à la fois de Colin et de Julia aussi, qui récemment divorcée va devoir elle aussi participer à sa reconstruction.
Alors le film sort le 20 novembre au cinéma, il y a presque 2 ans après Sajom, pour le coup. Est-ce que tu as déjà un prochain film un peu dans les tuyaux? Est-ce que tu prépares un peu la suite déjà, Jennifer?
Alors, je suis en écriture toujours, oui. J'adapte un livre qui s'appelle Annie au milieu d'Émilie Chazeran.
Qui est toujours avec Cécile aussi.
Toujours avec Cécile, tout à fait.
Tu l'embrasseras de notre part, en tout cas, on garde un très bon souvenir de votre venue toutes les deux pour Sage-Homme. José, les projets pour 2025, fin 2024, qu'est-ce qui t'attend?
Vous allez en avoir marre de moi. Moi, j'ai un.
Part du principe qu'on en a jamais marre de toi, José.
Il y a un petit court-métrage qui est en train de rafler beaucoup de prix qui s'appelle Jus d'orange, que je vous recommande. Il est assez joli sur l'écologie et là un peu comment se transforme ce libéralisme. Après, il y a Angelo dans la forêt mystérieuse, qui est un autre dessin animé dans lequel je fais un robot très narcissique. Après, il y a À toute allure, dans lequel je fais un commandant de sous-marin. De Lucas Bernard. Pour le 25 décembre, il y aura Jolie Jolie, qui est une comédie musicale. Et après, il y aura le film d'Anne Leni, qui sera là en 2025. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour cette année.
Merci José, merci Jennifer d'avoir été avec nous pour partager ce moment. Le panache, c'est le 20 novembre au cinéma, ne le rate pas. Et on va se requitter avec un petit extrait. Merci à tous les deux.
Merci Alain, merci.
Merci beaucoup Alain.
Bien Colin.
Ah tu vois, tu t'ouvres.
Mais je te comprends pas, Colin. Le psy, c'est non. L'orthophoniste, c'est non. J'entends ce que tu me dis. On a déjà tout essayé mille fois, mais... Enfin, du théâtre.
On a tous ici quelque chose qui nous gêne, qui nous complexe. Si on assume vraiment qui on est, eh bien, plus personne ne peut s'en servir comme une arme.
J'ai bien réfléchi. Je vais jouer Roxane.
Monsieur de Varsou, vous avez perturbé les autres classes et montré aux élèves qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient.
Vous souhaitez toujours votre titularisation, n'est-ce pas?
Les préjugés.
Les lâchetés. Jamais, jamais.
Je me bats, je me bats.
Sur scène, tu peux être qui tu veux, même toi-même.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Oh là là, mais ça n'arrête plus dans Chute, on écoute la télé. Lundi prochain, nous recevrons Cécile Bois et Odile Huillemin pour la fiction. Signalement, l'équipe de 7e Ciel pour la saison 2 inédite. On aura le grand plaisir de recevoir l'équipe de Prodigieuse avec les frères Potier. Mais Franck Dubosc et Mélanie Robert seront également là, vous l'avez compris. Ça s'annonce encore événement lundi prochain.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas, plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.